Bonsoir. La première ministre Judith Suminna invite les investisseurs canadiens à venir investir en RDC. Elle leur a lancé cette invitation lundi 18 novembre à l'ouverture du Forum Africa Accelerating 2024 organisé par la Chambre des commerces Canada-Afrique en collaboration avec le gouvernement canadien. À Ottawa, au Canada, la chef du gouvernement congolais y a défendu la RDC comme une destination incontournable pour les investissements, forte de ses immenses ressources naturelles et humaines, tout en appelant à une coopération accrue pour relever les défis climatiques et favoriser une transition énergétique durable. Pour Judith Suminna, la RDC n'est plus ces géants au pied d'argile. Elle devient par excellence la terre des destinations des capitaux pour un devenir meilleur. Que pensez-vous de l'appel de la première ministre? Que devrait faire la RDC pour attirer plus d'investisseurs? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 20 novembre 2024. Participe au débat de ce soir Fabrice Ngabo, il est expert en fiscalité et finances. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Lems Kamonia, économiste, ancien directeur des cabinets adjoints au ministère des Transports et Voies des Communications. Lems Kamonia, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec moi dans ce studio, Dadi Saleh, il est professeur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Saleh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Nyamikene Wakalicia Mourandia depuis Kinshasa. Inviter les investisseurs est une chose, mais aussi créer les climats des affaires en est une autre. Nous savons que notre système fiscal, système fiscal de la RDC bien sûr, est un plus grand frein aux investisseurs même nationaux. Nous connaissons les cas de plusieurs Congolais qui préfèrent investir dans les pays voisins comme l'Ouganda, la Tanzanie, par manque des bons climats des affaires au pays. Médard Makiaba, entre-temps, vous dites que la justice est malade. Quelle image de la RDC vis-à-vis des investisseurs qui peut venir dans un pays où la justice est malade? Comment sera-t-il protégé? À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, Judith Suminna invite les investisseurs canadiens à venir investir en RDC. Appel fait à l'ouverture du Forum Africa Accelerating 2024 à Ottawa, au Canada. Pour Judith Suminna, la RDC possède des atouts suffisants pour attirer tout type d'investisseurs et invite le Canada à en profiter. On écoute la première ministre de la RDC dans cet extrait, nous proposé par Donna Madimba.
J'insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation. Établir des partenariats académiques entre nos institutions universitaires permettra de développer les compétences indispensables dans le secteur minier et technologique, renforçant ainsi nos coopérations à long terme. D'emblée, entre le Canada et la République démocratique du Congo, c'est un regard croisé. C'est dans ce contexte que mon pays lance un vibrant appel à la belle expertise canadienne dans les métiers liés au secteur productif de l'économie congolaise. Je pense ici notamment au secteur de l'agriculture, des mines, de l'énergie, des infrastructures. Mesdames et messieurs, le vœu des peuples africains et même de l'humanité tout entière est de voir s'intensifier et se densifier les partenariats à travers le monde autour de grands projets qui cristallisent le développement intégral. La République démocratique du Congo n'en demeure pas moins le bénéficiaire et appelle les partenaires canadiens à venir investir dans un partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines, car elle est la terre d'investissement et de transformation du monde. N'étant plus ce géant au pied d'argile, mon pays devient par excellence la terre de destination des capitaux pour un devenir meilleur, car autant la problématique du réchauffement de la terre mobilise et fédère les esprits pour des réflexions nourries, autant la solution trouvée sur papier doit faire converger les énergies pour sa concrétisation. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans dire que mon pays, la République démocratique du Congo, est une panacée aux problèmes qui terrifient l'humanité et cela n'a plus besoin d'être démontré. Il est temps de mutualiser nos efforts dans le réchauffement climatique qu'autour de l'industrie des métaux indispensables à la transition énergétique qui, en plus de ses forêts et tourbières, justifie tout espoir de survie sur Terre.
C'était la Judith Soumouina, première ministre de la RDC, lors de l'ouverture du Forum Africa Accelerating 2024, organisé par la Chambre de commerce Canada-Afrique en collaboration avec le gouvernement canadien. Forum qui s'est tenu à Ottawa, au Canada. Professeur Dadi Saleh, je rappelle que vous êtes spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Que la RDC est devenue une destination incontournable pour les investissements fortes de ses immenses ressources naturelles et humaines. Elle devient par excellence la terre des destinations des capitaux pour un devenir meilleur. C'est l'appel de la première ministre Judith Soumouina, voilà, aux investisseurs canadiens. Que pensez-vous de cet appel, professeur?
Dans le contexte actuel, l'appel semble être normal parce qu'on a l'habitude de faire appel aux investisseurs, surtout étrangers. Et quand ils viennent, pour certains ministres, c'est un succès. Et c'est même un bilan dans ces cadres-là. Ils sont arrivés à amener 1 million, 50 millions, 1 milliard de dollars des capitaux venant de l'extérieur. Et que, bon, malheureusement, ça va, la première ministre prend le même chemin. C'est-à-dire, effectivement, nous n'avons pas encore une révolution dans le sens de nos investissements. On n'a pas encore une révolution dans le sens de nos investissements. C'est vrai que tout le monde sait que la République démocratique du Congo, c'est une destination formidable pour tous les investisseurs. Et d'ailleurs, certains investisseurs, je suis désolé, préfèrent bien faire la guerre plutôt que venir investir directement en République démocratique du Congo. Tout, comme tout le monde reconnaît que nous sommes dans une guerre d'usure avec le minerai des sangs, etc. C'est-à-dire quoi? Techniquement, nous devrions comprendre qu'on devait faire une révolution dans les sens d'investissement à court, moyen et long terme. Et que pour l'instant, toutes les fois qu'on fait appel aux investisseurs extérieurs, je suis bien d'accord, il y a toujours des avantages comparatifs et c'est, ça semble être bien. Mais quand ça devient toute une politique générale, je pense que c'est une erreur stratégique monumentale. Pourquoi? Parce qu'on devait d'abord faire appel aux investisseurs intérieurs, à l'intérieur. Et on devait créer effectivement les conditions pour que les investisseurs extérieurs puissent être le mieux nantis. C'est-à-dire assez de protectionnisme, comme ça s'est fait en Europe, comme ça s'est fait en France, comme ça s'est fait encore aux États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à la Chine de venir investir dans n'importe quel secteur. Et la Chine, il y a moins de 5 ans, vient d'ouvrir certains secteurs qui n'étaient que des secteurs d'investissement pour la Chine. Quels que soient vos milliards de dollars, vous pouvez pas venir investir en Chine, ça va, parce que ce sont des secteurs stratégiques. Alors là, la République démocratique du Congo semble compter plus sur les investisseurs extérieurs, c'est une erreur, comme je l'ai dit, en termes surtout de valeur ajoutée, parce que toute la valeur ajoutée va à l'extérieur. Et effectivement, malheureusement, comme on n'a même pas beaucoup de conditions pour ces investissements venant de l'extérieur, c'est-à-dire on n'arrive même pas à améliorer nos ressources humaines et on n'a même pas d'industrie. On n'a pas d'industrie appartenant aux Congolais. Il n'y en a pas assez, absolument pas. On vient de fêter la journée africaine de l'industrie, de l'industrialisation. Eh bien non, nous sommes sous industrie. Comment est-ce qu'on peut dire?
Sous-industrialisé.
Sous-industrialisé. Parce qu'effectivement, nous ouvrons trop de portes aux industries et aux investisseurs venant de l'extérieur. Au fond, ça a des effets à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que nous tournons dans un cercle vicieux de la pauvreté. Je répète, on tourne dans un cercle vicieux de la pauvreté à cause effectivement des investissements. Prenez par exemple le secteur bancaire, qui est un secteur phare pour les investissements. Parce que pour un investisseur sérieux, il joue avec le monde financier, c'est-à-dire les banques, le bourse, on n'a pas de bourse malheureusement, banque, bourse, et on a aussi les investissements d'une façon locale. Ça peut venir des mamans, de l'épargne, etc. Mais en grande partie, c'est les grands investissements, c'est avec les banques. Or, jusque-là, on n'a même pas 99% des banques congolaises sont pratiquement des banques étrangères. Mmh. Ce qui fait qu'on n'a pas investi dans le finance et que naturellement, ben, on ne peut pas avoir facilement des crédits de 5 millions de dollars, 100 millions de dollars, ça va, pour faire des grandes industries. Et que, effectivement, ça fait un défaut structurel. Je précise bien. C'est un défaut structurel pour l'investissement en République démocratique du Congo. Donc, pour rompre les cercles vicieux d'un mauvais investissement, j'appelle ça mauvais investissement, parce que toutes les fois que nous ouvrons des portes, ça va, sans protectionnisme, aux investissements de l'extérieur, je ne dis pas que les investisseurs extérieurs ne peuvent pas investir, s'il vous plaît. Non, c'est plutôt la masse. Parce que pour l'instant, les grands investissements, c'est à plus de 80%. Tous les grands investissements sont des investissements venant de l'extérieur. Que ça soit dans les domaines miniers, que ça soit dans le domaine des banques, que ça soit dans le domaine des supermarchés, que ça soit dans le domaine de la communication, ben, en fin de compte, même dans l'agriculture. Ça va. Donc, on a vendu à vil prix tout ce que nous appelons capacité. Donc, faire appel. Appel et disant que nous avons un grand marché, ça c'est sûr et tout le monde le sait, mais bon, nous laissons un peu le marché bénéficier aux étrangers. Écoutez,
et madame. Et donc, selon vous, professeur Dadi Saleh, il faut d'abord favoriser les investisseurs nationaux.
Tout à fait. C'est la moindre
chose. Avant de penser aux
étrangers. C'est la raison pour laquelle nous avons un gouvernement. Les gouvernements, c'est pour les Congolais. On n'a pas un gouvernement des Américains, des Français en République démocratique du Congo. Mais quand le gouvernement met en priorité les investissements de l'extérieur, avant, les investissements de l'extérieur devaient être complémentaires aux investissements de l'intérieur. Je vous donne un système un peu simple, parce que je sais qu'à la radio, c'est toujours les temps. Ça va? Moi, j'ai proposé les systèmes néo-mercantilistes avec un système industriel complet. Je précise, c'est un peu technique, mais bon, ok.
Essayez d'utiliser des termes simples pour permettre à tous nos auditeurs de pouvoir comprendre ce que vous voulez dire.
Un système industriel complet, c'est ce qu'a appliqué effectivement la Grande-Bretagne au niveau, quand il fallait industrialiser effectivement l'Angleterre, qui est le premier pays industrialisé, et qui ont mis ses propres capitaux. Et puis les États-Unis, l'Europe ont suivi. C'est-à-dire, vous investissez dans l'industrie lourde, effectivement, pour vous permettre exactement de contrôler non seulement votre sécurité et avoir être autosuffisant. C'est ça même notre philosophie Kujitegemea. Tomilu kela tuso sangue mosituji kebela. Les autres viennent en complément. Parce qu'aucun pays ne pourra être 100% capable d'investir dans tout. Mais ici, chez nous, et en Afrique globalement, c'est l'inverse. Donc, on a des politiques économiques, des très mauvaises politiques économiques. On a des très mauvaises politiques budgétaires par rapport à l'investissement, s'il vous plaît. On a des très mauvaises politiques monétaires. Ici, je dois préciser pour des termes simples. Mauvaise politique budgétaire, c'est que exactement, le plus ou moins 1,5, ça a été quand même. Hein, on est arrivé à 48%. Par rapport au budget de l'année passée. Mais c'est quel investissement? Ce sont des investissements dans les infrastructures, ce qui est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas de l'investissement dans l'industrie et dans le business qui paye directement cash. C'est plus social et on récupérera. Vous comprenez? Mais quand on peut poser des questions, quand nous investissons 5 milliards de dollars, ok, dans des hôpitaux et tout le reste, nous avons gagné combien? Alors, ça fait plus de 60 ans, quelqu'un vous expliquera qu'on a gagné. Pourtant, il y a des industries, quand nous produisons, par exemple, des téléphones, si nous produisons, exemple, si Bukangalonzo allait réussir, ça va, des produits qu'on peut consommer, on les chiffre. La République démocratique du Congo va gagner en termes directs, en termes de plus-value. Nous allons créer des milliardaires, ce qui fait qu'on n'a pas de milliardaires. On n'a pas assez de milliardaires dans le sens d'investissement au Congo. Parce que le climat d'affaires ne le permet pas. On n'a pas compris qu'il faut changer tout le système. Ce n'est pas aller appeler deux investisseurs qui va arranger la République démocratique du Congo. Là, nous tournons, comme je l'ai dit, dans un cercle vicieux de la mauvaise, du mauvais investissement.
Merci, Dadi Saleh. Fabrice Ngabo vient de nous rejoindre dans ce studio. Il est expert en fiscalité et finances. Fabrice, comment vous analysez cet appel de la première dame aux investisseurs canadiens? Je ne sais pas si vous avez suivi l'analyse du professeur Dadi Saleh. On va résumer. C'est bien d'appeler les investisseurs, mais il faut commencer d'abord par favoriser les locaux, les investisseurs nationaux.
Merci beaucoup, madame, de la question. Je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais m'acquitter d'un devoir très agréable de saluer mon co-débatteur de ce soir, professeur Dadi Salé.
Merci beaucoup.
Et pour les autres auditeurs qui nous suivent maintenant. Ben, écoutez, l'appel de son Excellence, madame la Première Ministre, est tout à fait légitime pour un dirigeant qui voudrait voir la situation économique dans son pays changer. Et donc c'est tout à fait normal pour elle de profiter de certaines tribunes pour pouvoir exprimer les ambitions les plus légitimes qui sont les siennes. Néanmoins, malheureusement pour elle, il s'est fait que les investisseurs ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des opérateurs qui sont purement rationnels. Un investisseur est guidé par la rationalité, c'est-à-dire c'est un acteur qui a un objectif qu'il poursuit dans tous ses actes posés, à savoir la maximisation de profit, la maximisation de bénéfices. Lorsque un investisseur se déplace, prend la décision de quitter un coin X pour aller investir dans un coin Y, eh bien, il y a des actes qui sont posés, qui les séduisent, qui les motivent à opérer ce choix. En fait, la gestion, c'est aussi un ensemble de choix. Alors, malheureusement, Son Excellence, Madame la Première Ministre, il a oublié qu'il est à la tête du gouvernement d'un pays qui ne réunit pas encore les conditions pour pouvoir faire cet appel. Encore que...
Quelles sont ces conditions?
Je vais y arriver. Je veux dire qu'un entrepreneur, pour qu'il prenne la décision d'investir dans un milieu, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un appel. Il évolue dans un environnement où il y a l'information qui circule. Donc lui, il doit constater l'opportunité qui se présente par devant lui pour pouvoir opérer le choix d'investissement.
Peut-être qu'il n'a pas la bonne information. Elle va justement pour motiver, aider ses investisseurs à pouvoir venir.
Les conditions et les actes sont les suivants. Par exemple, madame, lorsque vous avez un État où il y a une gouvernance de qualité, c'est un élément majeur pour fonder ou pour influencer la décision des investisseurs. Mais quand vous évoluez dans un pays où le niveau de la gouvernance publique pose énormément de problèmes, on parle de détournement de deniers publics matin, midi et soir, on parle de scandale de la corruption. Pensez-vous que cette information qui circule, parce que ne pensez pas que nous sommes dans un monde où l'information sur les actes que nous posons n'arrive pas en dehors de nos murs. Donc le monde entier nous observe et regarde comment nous gérons notre pays. Déjà, quand la gouvernance pose problème, je ne vois pas qu'il y ait des investisseurs sérieux qui soient séduits de venir vers vous alors que déjà, la qualité de gouvernance n'est rassure pas.
Alors, lorsque
Parce que l'investissement est lié aussi à la notion de risque.
Mais lorsque vous dites que la gouvernance pose problème, c'est quoi exactement?
Je fais référence notamment à la problématique de détournement, à la problématique de corruption. Les ressources essentielles qui auraient pu être investies dans les besoins les plus cruciaux de la société, notamment les infrastructures sociales de base, socio-économiques, qui devraient recevoir le gros des ressources publiques vu le contexte dans lequel nous sommes, n'en bénéficient pas, les individus détournent cet argent. On a dernièrement entendu parler du niveau de la dette publique extérieure. Des ressources qui auraient pu nous permettre de créer un pont entre les générations présentes et les générations futures en les investissant dans les projets les plus porteurs de croissance, de richesse pour un espoir de notre génération, mais des individus, ils obtiennent de l'argent public, que ce soit au titre des ressources internes, que ce soit au titre de crédits extérieurs et consorts auprès des institutions de Bretton Woods, et qui détournent ces financements sans que, au niveau interne, ils soient inquiétés. C'est tout simplement regrettable. Et les investisseurs extérieurs, ils sont informés de tout ce qui se passe chez nous. Ça, c'est un premier élément et très important. Le second élément, c'est l'état du climat des affaires. Quand on parle du climat des affaires, on voit tout ce que les entrepreneurs congolais subissent matin, midi et soir comme tracasserie. Et il y en a qui prennent la décision carrément d'arrêter les investissements parce qu'ils évoluent dans un environnement où pratiquement les répondants de l'État donnent l'impression de ne pas être sérieux. Voyez-vous, c'est un élément majeur aussi qui peut démotiver ou qui peut démotiver un investisseur. Troisièmement, c'est la situation sécuritaire. L'argent n'aime pas les bruits. Pensez-vous que des investisseurs importants puissent prendre la décision de venir dans votre pays alors que sur les chaînes internationales, c'est toujours des informations liées à l'activisme des groupes armés, à des massacres, au bruit de bottes. C'est un élément aussi important qui peut faire que Son Excellence Madame la Première Ministre se pose la question s'il ne serait-il pas mieux dans un premier temps d'améliorer son ménage avant d'aller faire appel aux invités. Quatrième élément, c'est la situation du système fiscal congolais. Vous avez, je suis fiscaliste de formation et je vous dis que nous avons un système fiscal qui n'est pas mauvais, qui est bon. Quand vous prenez les impôts que nous avons dans ce pays, vous en avez pratiquement 10. Vous avez 5 au niveau du pouvoir central, vous en avez 4 au niveau des provinces et 1 au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais quand vous allez de l'autre côté de la main pour voir le domaine non fiscal, c'est-à-dire vous prenez la nomenclature de droits, taxes et redevances, madame, vous avez un phénomène d'une multiplicité de taxes. Et ça fait que le climat des affaires devient de plus en plus morose et les investisseurs assez souvent qui ne sont pas spécialistes de la question ne vont pas faire la distinction entre les impôts qui ne posent pas problème et les taxes qui posent problème. Ils mettent tout ça dans un paquet pour dire le climat des affaires au Congo n'est pas bon. Et donc moi je pense qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire d'abord au niveau interne avant de se tourner vers l'extérieur. Et puis le cinquième élément, ce sont les infrastructures socio-économiques. Et j'ai suivi le premier intervenant faire allusion aux routes. Personnellement, j'ai suivi Madame la Première Ministre s'exprimer sur la question devant certains de vos confrères ici au niveau local. Et j'ai compris qu'elle aussi a connaissance de la situation catastrophique des routes dans notre pays. Et bien malheureusement, il n'y a pas d'actes concrets. Il n'y a pas une planification qui rassure, qui donne de l'espoir pour que les gens s'attendent à un changement. Nous avons, pour rappel, un réseau national routier de près de 154 000 km de route qui est asphalté à moins de 10%. Madame, on trompe qui? Pensez-vous que dans ces conditions, même les Congolais eux-mêmes peuvent-ils être motivés à investir dans leur propre pays? Déjà, quand il n'y a pas de route, pensez-vous que vous aurez une économie qui fonctionne correctement? Les routes, c'est d'abord un sérieux problème. Parce que quand on parle aussi de l'agriculture, ainsi de suite, pensez-vous que les gens pourraient aller dans la campagne où pour la plupart des cas, ils se posent un problème de sécurité et ils vont investir leurs moyens pour faire de l'agriculture et après, ils n'auront pas de route pour acheminer leur production vers les lieux de grande consommation. Donc, c'est un problème sérieux. Et je vais chuter pour vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, sous le même régime le régime politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi, on venait d'amener la RDC à adhérer à la ZLECAF, à la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ce jour-là où on a signé la mort, où on a empêché aux Congolais d'espérer à un changement en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation ou de croissance d'investissement intérieur et extérieur. Et je vous informe que le seul fait qu'on ait amené le pays dans la ZLECAF, on a exposé de manière significative les industries existantes au niveau local à une concurrence déloyale et il y en a déjà qui se préparent à plier leurs valises et partir parce que finalement, après un temps, quand les dispositions du traité vont commencer à courir, les produits qui sont fabriqués dans des pays africains vont commencer à entrer sur notre territoire en ne payant pas des droits de douane. Ça va créer un déséquilibre total au niveau du marché intérieur. Et l'État lui-même qui a pris cette décision, il ne s'imagine pas les recettes qu'il pourra perdre, notamment à l'entrée, celles qui sont collectées par la régie financière qu'on appelle DGDA. Comment va-t-il compenser ce manque à gagner? Donc, nous sommes dans un environnement où on a l'impression que les décisions à la base qui sont prises pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population ne sont pas soutenues par des analyses assez souvent approfondies.
Merci. Lemso Kamonya, économiste et ancien directeur du cabinet adjoint au ministère des Transports et Voies des Communications. Votre lecture à vous par rapport à cet appel de la Première ministre aux investisseurs canadiens. Est-ce que la RDC réunit aujourd'hui ou à ce jour toutes les conditions pour que les investisseurs acceptent de venir mettre leur argent, d'affluer ou de venir investir au Congo? Lemso Kamonya.
Vous m'entendez maintenant?
Oui, 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 je vous entends.
Voilà, voilà, je disais merci pour la question. Je pense que ce n'est pas la première fois que cette problématique est débattue et aussi ce n'est pas la première fois qu'on entend ces appels qui sont lancés par les autorités publiques au sommet de l'État pour faire appel aux investisseurs étrangers de venir exploiter les potentialités que nous avons dans ces pays, d'innombrables potentialités. Alors, la question qui est posée, simple. On part d'une simple hypothèse. On considère que notre pays est riche en potentialités minières, agricoles, en ressources d'eau, tout ce que vous connaissez. Là, on vous dit que c'est un scandale sur plusieurs points. Et on pense que, à l'intérieur, nous n'avons pas assez de capitaux pour exploiter ces potentialités. Nous n'avons pas assez de capitaux, on n'a pas assez d'investisseurs nationaux. C'est pourquoi nous allons maintenant crier à l'extérieur pour demander à ceux qui ont plus de moyens de venir investir chez nous. Et je dirais que au niveau de l'État, si vous vous rappelez, je crois que ça devrait être en 1998, au moment où on a voté la loi portant code des investissements. C'est cette loi qui avait même par le fait même créé l'Agence nationale de la promotion des investissements. C'était dans la même optique de dire mettons en place un cadre légal qui va permettre d'attirer des investisseurs et on crée un organisme qui est chargé de la promotion des investissements qui est l'ANAPI. Mais pourquoi depuis lors on a comme l'impression que ces investisseurs n'arrivent pas? Cela signifie qu'il y a le problème se situe à plusieurs niveaux. À entendre la Première ministre, elle lance ce que moi j'appelle un appel d'ordre général. Elle ne va pas là avec un portefeuille de projets pour dire voici tel projet, voici tel projet. Voici telle opportunité, voici telle opportunité. On se limite à dire, il y a des potentialités, venez investir. Alors, quand vous lancez des appels d'ordre général, c'est déjà difficile pour que les investisseurs se disent, quelle est la possibilité que j'ai de dire, si on me propose quelque chose dans un autre pays, je vais laisser ce pays pour aller en RDC. Étant donné que les projets ne sont pas tellement identifiés. Et là, moi, je considère que ça, c'est le premier frein qui limite la plupart des investisseurs. Ils entendent ça comme un chapelet d'intentions, de bonnes intentions, parce que vous n'amenez pas du concret. Vous n'amenez pas des projets qui ont été identifiés. Vous n'amenez pas des projets qui ont été étudiés. Vous n'amenez pas des projets qui sont bancables, pour qu'ils se disent, OK, là, je peux me permettre d'aller dans ces pays. C'est peut-être un effort qui doit être fait. Je sais qu'en son temps, avec l'ANAPI, il y avait déjà beaucoup d'efforts pour améliorer cette communication. Je me rappelle encore l'actuel directeur de cabinet chef de l'État, M. Anthony Kinzo, quand il était encore DG de l'ANAPI. Il faisait cet effort pour identifier les projets par secteur. Et chaque fois qu'il se retrouvait devant les investisseurs, il leur indiquait les projets qui correspondaient au domaine de leur intérêt. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose que nous devons faire en premier lieu pour améliorer notre effort de communication à ces domaines-là et éviter de lancer des appels d'ordre général. Le deuxième problème, je crois que la plupart des invités l'ont abordé. Ici, il s'agit d'un problème majeur. Quand on vous dit venir investir dans un pays, il y a ce problème de la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Et cela appelle non seulement à un cadre légal et juridique qui soit à jour, mais aussi à la manière dont la justice est administrée dans les pays. Si dans les pays, nous crions que notre justice est malade, c'est-à-dire nous envoyons déjà un message négatif aux investisseurs. C'est pour dire que les jours qu'ils auront des problèmes, ils ne peuvent pas avoir gain de cause parce que nous sommes dans un pays où les textes sont surannés et aussi la justice est malade, on ne peut pas administrer une justice, on ne peut pas dire les droits quand il y a un problème. Et ça soulève suffisamment beaucoup de réserves auprès de ceux qui se disent on va prendre ce pari d'aller investir. Et j'aimerais revenir sur un autre facteur que les deux co-débatteurs ont évoqué. C'est ce problème d'infrastructure socio-économique qui véhicule le développement. Si nous sommes dans un pays où les infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient aéroportuaires, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient portuaires, posent problème. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de courant. Regardez comment les miniers qui sont même au Katanga, là où le secteur minier qui est le secteur primaire qui véhicule notre croissance, comment ces miniers souffrent pour avoir le courant. Ils importent même le courant de notre courant, ils réimportent notre courant de la Zambie, mais ça n'arrive pas à couvrir l'ensemble des besoins. Par manque de chemin de fer, par manque de routes, par manque de ports, par manque de bateaux, comment voulez-vous que, sans ces facteurs-là, que quelqu'un puisse venir investir? Je crois que ça, c'est un domaine qui revient à l'État. Tant que l'État n'aura pas suffisamment investi dans toutes ces institutions socio-économiques, il sera difficile à trouver des investisseurs parce qu'il peut venir, il s'est dit, je vais aller dans les hauts où il est. Comment je vais faire en sorte que les produits que je vais fabriquer ou que je vais transformer puissent quitter les milieux de production vers les milieux de consommation? Comment faire en sorte que peut-être les intrants que je vais importer parce qu'ils ne sont pas produits en RDC puissent arriver jusqu'au lieu de production? Et tous ces facteurs deviennent des facteurs limitatifs qui empêchent les investisseurs à venir se dire, ok, bon, c'est bien beau, il y a cette opportunité, mais comment on le fait quand ils regardent toutes les contraintes qui empêchent le bon déroulement de l'investissement? Un autre facteur, j'aimerais encore y revenir ici, je voudrais là de plus insister, c'est sur les études de faisabilité. Est-ce que nous avons des projets qui ont été étudiés, qui montrent leur rentabilité, ou nous sommes seulement en train de miroiter les projets? Je crois que ça, cet effort doit être fait pour que dans la plupart des provinces, dans la plupart des régions, peut-être à travers la NAPI, à travers les provinces, qu'on fasse quand même un effort pour que ces opportunités-là soient transformées en projets et soient transformées en projets bancables. Comme ça, quand on va voir les investisseurs, qu'on dise, si vous venez ici, voici les conditions et voilà ce que vous allez gagner qui est beaucoup plus mieux que ce que vous pouvez gagner ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est mondialisée. On ne doit pas considérer qu'il n'y a que la RDC qui est la terre d'investissement ou la terre d'espoir. Il y a plusieurs autres pays qui ont peut-être les mêmes conditions que les nôtres et qui ont une bonne politique pour arriver à attirer les investisseurs. Donc, l'effort est encouragé, mais nous avons quand même beaucoup de choses à faire au niveau interne. Je ne m'aimerais pas revenir sur les autres aspects que les co-débatteurs ont déjà évoqués, les problèmes de détournement, de corruption, des tracasseries administratives, du climat des affaires. Donc, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous devons vraiment soigner à l'interne. Alors, avant de terminer cette première partie de mon intervention, j'aimerais revenir ici sur la nécessité de revoir notre loi sur les codes des investissements. Parce que lorsqu'on voulait attirer les investisseurs privés, la loi doit être claire pour définir quels sont les secteurs qui sont complètement ouverts aux privés, aux étrangers, pour lesquels nous pouvons avoir ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Donc, un étranger peut venir et y investir à 100%. Quels sont les secteurs pour lesquels nous devons dire ici, vous ne pouvez pas les faire seul en tant qu'étranger, vous ne pouvez les faire qu'en partenariat avec soit les privés, et les secteurs pour lesquels vous pouvez les faire en partenariat avec l'État, et les secteurs qui doivent être réservés aux nationaux. Et même des pourcentages de dire dans ces secteurs-là, on ne peut pas dépasser. Toute cette articulation-là doit être définie clairement dans la loi portant code des investissements, de façon à ce que qu'on mette des limites et qu'on n'ouvre pas totalement notre pays à des investisseurs étrangers, parce que demain, nous allons être esclaves de ces étrangers qui vont exploiter toutes nos possibilités et rapatrier tous les capitaux dans leur pays d'origine, comme c'est déjà le cas dans certains secteurs que nous sommes en train de constater. Donc, merci. Il est très important de ne pas dire allons chercher l'argent, mais et aussi regarder un peu ces conditions internes qui nous permettent d'avoir un minimum de protection et des investissements nationaux.
Merci Lems Kamania pour votre intervention. Hein. On va poursuivre cette émission avec les auditrices et auditeurs de Radio Capi qui appellent, qui veulent aussi donner leurs avis sur le sujet de ce soir. On va se rendre dans la province de la Tchopo, oui, pour écouter cet auditeur.
Maître de dette est la routine depuis qu'il s'engage à la Tchopo. L'investissement en RDC ne doit pas être l'objet d'une invitation, mais aux investisseurs eux-mêmes de savoir où aller investir et pourquoi aller. À mon avis, la meilleure façon d'inviter les étrangers à venir investir chez nous en RDC consiste à renforcer la sécurité sur l'ensemble du pays d'une part et d'améliorer les pratiques de gestion de la chose publique à mettre en place un système de gestion publique qui bannit les actifs valeurs comme la tracasserie, la corruption, l'impunité, etc.
Alors cet auditeur, il aborde un peu dans le même sens que vous, hein, professeur Zadi Salé. Juste une brève réaction.
Oui, mais on est tous d'accord, mais il faut faire du marketing. Uh-huh. Et on peut toujours inviter effectivement les investisseurs. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Si quelqu'un pense qu'on ne peut pas faire appel aux investisseurs, non. Même aux États-Unis, on fait encore appel aux investisseurs. Même en Chine, il y a des réunions avec l'Afrique comme investisseur. Donc ça, il faut le faire. Mais avant de le faire, il faut d'abord ce qu'on appelle partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas avoir des partenariats gagnant-gagnant si on n'est pas en rapport de force. Il faut d'abord créer les rapports de force, une valeur ajoutée effectivement pour avoir un partenariat gagnant-gagnant. Sinon ça ne peut pas exister et on peut faire des mauvais appels. Là je suis d'accord. Donc on peut faire des appels qui ne valent pas surtout la peine. Ici il s'agit de comprendre d'abord l'aspect structurel, stratégique des investissements. Je pense que mes co-débatteurs l'ont dit d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à preuve du contraire, je pense effectivement que les analyses se font, mais il n'y a pas une définition. C'est quoi la stratégie des investissements en République démocratique du Congo? Mon co-débatteur a été plus éloquent en parlant des codes des investissements. Mais au fond, quels sont les secteurs stratégiques où c'est réservé aux Congolais? Ce sont de petites choses très simples avant de passer aux aspects opérationnels. Parce que l'appel, ce n'est qu'un appel opérationnel. Toute personne au monde peut marcher libre, peut venir investir, c'est vrai. Mais quelles sont les limites, effectivement? Au fond, l'économie de la République démocratique du Congo est plus que malade et en coma. Ce n'est pas seulement la justice, c'est pas moi seul qui l'ai dit. Donc, l'économie étant en coma, il faut comprendre ce quoi. On parle ici, par exemple, de la production. C'est ça, l'économie. Ça va? On a la production, on a la distribution et on a la consommation. Dans les secteurs des productions, eh ben, ce ne sont que des étrangers. Dans le secteur des distributions, ce ne sont que des étrangers. Dans le secteur des consommations, ce ne sont que des étrangers. Donc, nous avons...
Mais est-ce qu'on interdit, ce n'est pas... Est-ce que c'est exclusivement réservé aux étrangers ou ce sont les Congolais qui ne veulent pas investir dans
non,
ce secteur?
Non, ce n'est pas que les Congolais ne veulent pas investir. Je pense que mon co-débatteur était encore plus éloquent. On est avec lui dans le bureau. Il faut les conditions. Il faut de limites. Ça s'appelle protectionnisme. On ne peut pas avoir un État, un gouvernement qui ne protège pas ses propres investisseurs et va seulement chercher les investisseurs à l'extérieur. Ça va? C'est vrai, il y a des petits programmes. Mais là, je parle de toute une philosophie qui doit changer. Exemple, madame, pour être un peu plus concret. On doit adapter les investissements par rapport à notre société. Là, je vous donne un exemple un peu qui peut sembler banal et c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas réfléchir. Nous tournons un peu en rond avec des petits exemples qui ont échoué. Ici, pour moi, par exemple, nous devrions adapter notre économie et faire une économie de guerre. Parce que nous sommes en guerre depuis 30 ans. C'est-à-dire, effectivement, en faisant une économie de guerre, nous allons faire des investissements de guerre. Nous allons faire, effectivement, des budgets de guerre. Un peu comme en Ukraine, un peu comme aux États-Unis, un peu comme en Europe, effectivement. Vous comprenez? Quand vous êtes en guerre, c'est-à-dire, effectivement, qu'on a des Congolais qui peuvent produire des bottines, qui peuvent produire, effectivement, la nourriture pour que nous puissions manger. On ne peut plus importer cela. Donc, ça n'a rien à voir, mais... Écoutez, je le disais encore tantôt, on a construit 145 territoires, j'ai pas trop de problème avec ça, mais écoutez, si nous continuons, nous construisons à Rutshuru, il y a des projets de 145 territoires. Mais là, les Rutshuru est dans le domaine des Rwandais. Je suis désolé, n'est-ce pas? Bunagana est dans le domaine des Rwandais. Et les projets de 145 territoires, où est-ce qu'on en est? Et bientôt, ça risque d'être Goma. Et les projets de... Donc, au fond, on n'est pas logique. Il n'y a pas un aspect stratégique. Je suis désolé parce que je ne cesse de les répéter. Je cherche le chef de l'État. Je suis direct. Depuis que je le cherche, où sont, est-ce qu'on peut amener notre contribution? Parce que des choses comme ça, on ne devait pas les dire à la radio. Mais ça fait 5 ans, madame. Plus de 5 ans qu'on cherche les autorités pour essayer d'amener nos contributions. Ne nous donnez pas l'argent. Ça va. Changer la stratégie d'investissement en République démocratique du Congo. C'est un changement structurel. Pas un petit changement opérationnel. Vous savez, dans l'opérationnalisation, c'est là où nous avons beaucoup de... Comment on appelle ça? De décaissements en urgence. Ça va? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de 50 millions de dollars rapidement. Il faut faire sortir et c'est plus facile. Parce que en termes d'avantages comparatifs, comme nous n'avons pas de banques, ça va? Ce sont les étrangers qui ont des capitaux. parce que notre économie n'est pas assez productive, le PIB est assez bas, etc. Donc, les étrangers ont un avantage comparatif, ils viennent avec 100 millions de dollars, et ils donnent à un ministre 5 millions, etc. Et c'est fini, ça part rapidement. Merci. Donc, les Congolais ne peuvent pas le faire, malheureusement.
Alors, on va prendre ce deuxième auditeur qui appelle de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Allô, c'est Pierre Mauvais, je vous appelle à partir de Bounia, en Ituri. L'appel de la première ministre est stratégique et pertinent, soulignant les atouts naturels et humains de la RDC pour attirer les investisseurs canadiens. Pour renforcer cet appel, la RDC devrait améliorer son climat des affaires en simplifiant les procédures d'investissement, en garantissant la sécurité juridique et en luttant contre la corruption. De plus, promouvoir les partenariats public-privé, investir dans les infrastructures et développer des politiques pour aider les investisseurs canadiens.
Alors, je vais ajouter une autre réaction de John Fikila. La démarche de la première ministre n'est pas mauvaise. Cependant, le gouvernement devrait au préalable tenir compte de certains facteurs, notamment la sécurité, le problème des routes. Et d'ailleurs, on devait d'abord beaucoup plus soutenir les investisseurs locaux, ceux qui ont montré leurs projets devant le chef de l'État et avoir une politique d'investissement. Fabrice Ngabo, soyez concis. Hein.
Effectivement, l'appel il est pertinent parce que les potentiels que la première ministre appelle sont évidents, n'est-ce pas? Et on a obligatoirement besoin de les exploiter pour pouvoir améliorer la situation socio-économique de notre pays. Alors, je reviens sur un élément important pour apaiser un tout petit peu le prof et même le co-débatteur qui est en ligne. Oui, écoutez, on peut modifier, adapter le code des investissements, mais qui applique ce code d'investissement? Qui applique ces lois? Ce sont les mêmes dirigeants qui appliquent ces lois. Nous avons ici, dans ce pays, une loi sur le petit commerce qui réserve cette catégorie d'activités économiques aux nationaux. Mais est-ce que pour autant cette loi est appliquée? Non, elle n'est pas respectée. Et qui est censé sanctionner ceux qui violent les lois? Ce sont les mêmes autorités qui évoluent dans l'environnement et les conditions que nous tous sommes en train de déplorer ici, l'environnement de corruption, ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est vrai, c'est un fait d'aller vers des textes qui sont adaptés, mais encore, il est mieux de s'assurer que nous avons des nouveaux hommes, nous avons des hommes qui ont les attitudes, les savoirs nécessaires pour pouvoir appliquer ce texte. Alors, le professeur a ajouté que l'économie est malade, pour un peu renchérir le chef de l'État qui disait que la justice est malade. Et moi, j'ajoute que c'est plutôt le pays qui est malade. Il est malade de qui? Il est malade de ses hommes. Ses hommes en tant que dirigeants, ses hommes en tant que population. Et donc, je pense qu'il nous faut un nouvel homme à tous les niveaux pour pouvoir concevoir les choses comme il faut. Nous avons l'impression que beaucoup de conceptions qui se font à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, coopérationnel, sont en inadéquation totale avec les réalités sur le terrain. Alors, pour aller vite, je voudrais évoquer un élément très crucial sous le plan de commerce international que les États exploitent pour se rendre compétitifs. Parce que la compétitivité, c'est aussi au niveau des nations. Cet élément, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, au niveau du droit fiscal international, vous constatez que toutes les nations qui ont des ambitions de développement et qui le sont déjà, qui sont déjà développées, ont plus de conventions fiscales bilatérales avec d'autres. Quand vous prenez les États-Unis, la Chine, l'Inde et j'en passe, ils ont plus de 100 conventions fiscales bilatérales. Pourquoi pas nous? Vous savez, nous avons un pays qui avait jusque-là, avant le régime du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait deux conventions fiscales. Une convention fiscale avec l'Afrique du Sud obtenue en 2005 et une autre obtenue avec la Belgique en 2007 justement. Et une autre vient d'être ajoutée par le président de la République avec qui? Avec le Rwanda. Voyez-vous, un pays avec qui nous sommes en guerre. Alors que sur le plan international, il y a des indices, il y a des facteurs plutôt qui poussent les États à aller vers d'autres, notamment le niveau de flux d'échanges commerciaux avec d'autres nations. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui, si on a besoin que les investisseurs canadiens viennent ici, qu'est-ce qui peut justifier qu'on n'ait pas aujourd'hui une convention fiscale bilatérale avec le Canada? parce que c'est un acte qui sera posé et qui, en son sein, l'acte comprend des dispositions qui consacrent des avantages fiscaux comparatifs qui pourraient séduire directement, les pousser à venir vers nous.
Merci.
Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on n'ait pas à ce jour une convention fiscale bilatérale avec la Chine, avec, alors que nous avons des niveaux d'échanges commerciaux explosifs avec la Chine.
Donc, merci voyez-vous. Fabrice Ndiabo. Donc, on va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
C'est Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. L'appel de la première ministre ne va pas attirer l'attention des investisseurs, d'autant plus que cette initiative était déjà commencée depuis le premier mandat du président de la République par lui-même. L'argent des contribuables congolais était sorti dans le trésor public pour des voyages en raison d'aller chercher les investisseurs. Mais nous avions constaté qu'aucun investisseur est venu pour investir en RDC. Par ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi les investisseurs ne viennent pas investir en RDC? C'est le climat politique qui ne permet pas aux étrangers de pouvoir venir investir. De ce fait, nous invitons le gouvernement de faciliter d'abord les entrepreneurs congolais et cela va attirer les étrangers de venir investir.
Alors, c'est la même rhétorique qui revient. Hein? Faciliter d'abord les investisseurs congolais, les locaux. Mais lorsque cet auditeur dit, par exemple, qu'aucun investisseur n'est venu en RDC, est-ce que c'est vrai, Lems Kamonia? On a vu quand même Pepsi, non, ouvrir son entreprise ici. Les voyages du chef de l'État ont quand même payé.
Il y a sûrement des investisseurs qui viennent peut-être à titre privé, qui ouvrent leurs activités. Parfois, ce n'est pas l'impact que nous attendons. Parfois, nous voulons voir les grands projets. C'est tout ce que nous avons évoqué, un problème de structuration et un problème d'orientation pour qu'on arrive à voir est-ce que les investisseurs que nous avons attirés, c'est dans les secteurs que nous étions en train de souhaiter les voir venir investir. C'est peut-être ça. Mais il y a les privés, comme on dit, nous sommes dans une économie qui est mondialisée. Là où ils trouvent qu'il y a de l'opportunité du business, ils viennent s'installer. Et il y en a tout nombreux qui viennent s'installer sans même attendre qu'il y ait un quelconque appel. Donc là, maintenant la question c'est de savoir dans quel secteur on les attend. Les appels que nous lançons, c'est pour qu'ils viennent pour quel type d'investissement, pour quelle hauteur d'investissement. C'est peut-être ces grands investisseurs-là qu'on ne voit pas, qui ne créent pas beaucoup d'emplois, qui profitent aux Congolais, peut-être qui font des business à une échelle réduite et qui le profitent à eux-mêmes et que la population ne sent pas effectivement qu'il y a des investisseurs qui sont arrivés dans ces pays. Donc c'est un peu un problème de clarifier la communication, d'être un peu plus clair dans ce que nous communiquons et aussi de dire ce qui vient, c'est à la suite de ça, et ça nous permettra un peu d'évaluer peut-être les actions du gouvernement sur sa politique d'appel d'investissement des investisseurs.
Professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Que devrait faire la RDC pour attirer plus d'investisseurs? Soyez concis, on est vraiment à la fin de l'émission.
Comprendre déjà, contrairement à beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent en République démocratique du Congo sous forme de rébellion, sous forme d'exploitation illicite. Ce sont des investisseurs, vous savez ça? Ils sont à Walikale. Ils sont effectivement à Nitour, ils exploitent les bois, ils exploitent de l'or, ce sont des investisseurs et ils mettent beaucoup d'argent. Seulement, ce n'est pas contrôlé par les gouvernements congolais et par les Congolais. Et c'est en termes de milliards. Je pense qu'on est en procès contre Apple, ça c'est officiel au moins, c'est à cause de ça. Et avec les autres, donc quand on dit qu'il n'y a pas des investisseurs, c'est pas vrai. Il y a des investisseurs qu'on ne contrôle pas. Je voulais préciser effectivement qu'il y a des théories en termes entrepreneuriales que tout est opportunité pour un investisseur. Vous savez que en Europe, Mussolini, etc., ils ont profité de la guerre pour faire de l'argent, pour investir. Il ne faut pas penser qu'on réunira toujours toutes les conditions pour entre guillemets ce que les gens appellent du business. Je suis un peu de ce type-là révolutionnaire. Tout est investissement et que le gouvernement congolais doit s'adapter. Je précise qu'il faut s'adapter au contexte. Il ne faut pas rester trop carré par rapport à certaines universités qui apprennent l'investissement. Il faut d'abord la sécurité. Non, dans l'insécurité, il y a l'argent. Et je précise à tout le monde, ceux qui ne le savent pas, venez à Goma, vous allez voir. Autant d'argent et comment les gens s'enrichissent. Ce sont des pratiques claires. Ce sont un peu les écoles un peu trop anciennes où on pense que quand il y a insécurité, il n'y a pas investissement. Il y a investissement. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé l'économie de guerre que nous n'exploitons pas et que les autres sont en train d'exploiter. Je suis désolé, c'est lui qui me donne des preuves contraires qui viennent me le dire ici.
Fabrice Ngabo, votre conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus?
Et donc, pour conclure, madame, je pense que son Excellence, madame la Première Ministre, doit changer d'approche pour se tourner vers l'intérieur, pour voir dans le pays quelles sont les priorités qu'il faut pour la population. Je ne pense pas que la population aujourd'hui a besoin qu'on aille amener les investisseurs du Canada ou c'est pas moi de quel pays. On a besoin que le gouvernement se préoccupe d'abord des besoins les plus cruciaux de notre économie. Quels sont les besoins les plus cruciaux de l'économie? Il se résume en quatre. Vous avez la sécurité, vous avez la route, les routes, vous avez les énergies et la lutte contre les détournements et la corruption. Je pense que même lorsque on veut élaborer un programme, surtout un programme de gouvernance quinquennale, on procède d'abord par un diagnostic profond suivi d'une planification de qualité. Et qui dit planification dit fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, réalisables et acceptables dans le temps. Des objectifs qui sont clairs. Et puis ensuite, déterminer les ressources. Enfin, vous devez monter la stratégie. Quelle est la stratégie pour le gouvernement en vue d'investir dans le pays? Est-ce qu'il faut aller à l'extérieur? Il faut voir à l'intérieur. Je suis convaincu à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je donne cette information, peut-être que le gouvernement actuel n'a pas cette information, au ministère de l'Industrie. Où, en 2019, j'ai été associé à une équipe d'experts qui avait identifié 100 entrepreneurs porteurs de projets industriels dans ce pays. Des projets à caractère innovant, créatif, où vous avez eu des innovations qui n'ont jamais existé nulle part dans le monde, mais qui ont été réalisés ici par les Congolais. Et vous avez eu, par exemple, un Congolais qui vous crée un groupe sans carburant. Vous avez vu un Congolais, par exemple, qui vous...
Et il n'y a pas eu de suite par rapport à ça.
Bref, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller loin. On reste juste concentré sur ce qui est essentiel.
Merci.
À l'intérieur et nous aurons toutes les solutions.
Blaise Kamania, votre conclusion.
Mais moi, je dirais qu'il y a 5 facteurs qu'il faut prendre en considération si nous voulons attirer davantage d'investisseurs dans ce pays. Le premier facteur, c'est améliorer l'image et la communication du pays lorsque nous nous adressons aux investisseurs étrangers. Le deuxième facteur, c'est comme je l'ai dit, c'est identifier les véritables opportunités d'investissement, les traduire en projets bancables, et à ce moment-là qu'on ait une communication stratégique qui est basée sur les types de secteurs à travers lesquels nous comptons attirer les investisseurs. Et j'aimerais évoquer cette question de l'amélioration de la sécurité juridique et judiciaire des investissements et aussi continuer les efforts qui sont déjà en cours sur l'amélioration du climat des affaires. Et le dernier facteur le plus important, c'est améliorer toutes ces infrastructures économiques qui véhiculent le développement. Parce que sans bonne route, sans courant, sans chemin de fer, et sans port, sans aéroport, ça va être difficile de pouvoir attirer davantage des investisseurs pour qu'ils viennent dans notre pays.
Merci Lems Kamania. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné, qui m'a aidé à préparer ce magazine. Donna Madimba, Arcel Kajourou, John Tiboboa, Clément Tumanga, Jonathan Fouayani, Hervé Voka, Jean-Noël Mokundete, à la mise en onde, Martin Sebouchangwe, a supervisé ce programme, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.